Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Bonjour à tous. D'un côté, il y a les grands arbres centenaires de la deuxième forêt tropicale au monde, celle du bassin du Congo, 200 millions d'hectares au Bamo. De l'autre, le fleuve du même nom, véritable épine dorsale de plus de 4700 km, qui encore aujourd'hui charrie les mythes et la mémoire tumultueuse de tout un pays, la République démocratique du Congo. Au beau milieu, une étonnante cité coloniale de briques et de bois, au lustre éteint mais bel et bien encore debout. Yangambi, jadis plus grande station de recherche tropicale au monde, est notre destination pour 2 semaines. Ici, à plus de 2000 km de la capitale Kinshasa et 100 km de Kisangani dans la province de la Tshopo, située au nord-est du pays, on est au cœur de la forêt, mais loin de tout. Aucune voiture ne peut en effet circuler jusque-là, et pour y accéder, les plus chanceux prennent un canot rapide sur le fleuve, tandis que les autres, dans leur grande majorité, montent soit sur des baleinières, d'immenses barges qui avancent très lentement sur le fleuve, soit sur une moto, pour plus de 8 heures de route cabossée parmi la forêt dense et luxuriante. Élise Picon, notre reporter, a connu tout ça pour arriver à Yangambi. Et une fois sur place, elle a arpenté cette immense cité scientifique aux innombrables trésors, siège du temps des Belges de l'INEAC, rebaptisé depuis INERA, Institut National pour l'Étude et la Recherche Agronomique. Aujourd'hui, les appétits coloniaux de la fin du 19e siècle, matinée de science, ont su faire place à une réserve de biosphère de l'UNESCO et à de nouveaux projets soutenus par des bailleurs de fonds internationaux. Et c'est ce que nous allons découvrir avec Élise, ici avec Isaac Yanga, natif de Kisangani.
Yangambi est une ville entourée de la forêt, la fraîcheur, l'air à respirer est plutôt magnifique. Et à ce stade, pour moi, par rapport à Kisangani, le fleuve est très large, très large, je ne sais pas si tu le constates. Ça fait peur aussi, hein, parce que c'est devenu tellement géant. Ben, pour les gens qui ne sont pas habitués à voir ni l'océan, ni les lacs, pour nous qui sommes juste habitués à voir de rivières, les fleuves à partir de Kisangani, pour nous c'est gigantesque.
Tu crois que ça fait combien de kilomètres pour atteindre l'autre rive depuis ici?
Ça peut être entre 1600 et 1800 mètres.
On est près du fleuve, on voit les pirogues.
Il y a les pirogues, les pêcheurs. Les pirogues, les pêcheurs. Il y a de l'autre côté aussi deux pirogues couplées, mises en parallèle avec de planches. Généralement, on appelle ça tirando. On appelle ça tirando. Il y a aussi une baleinière par là qui fait des navettes entre Yangambi et Kisangani. Il y a aussi les canaux rapides du projet Sifor. Les beaches en soi n'est pas aménagé, comme on les constate, c'est juste un beach créé comme ça. Du coup, déjà en face du beach, on a des bâtiments coloniaux qui manquent juste une petite réhabilitation. Ça tient encore comme si c'était construit il y a de cela 3, 4, 5 ans. Parce que tu vois les briques, les bâtiments des l'INERA, c'est vraiment un énorme bâtiment. Et déjà, moi, en voyant la bibliothèque à deux niveaux, et je dirais pour moi, c'est la plus grande bibliothèque que j'ai vue. Bien sûr, je suis des Kisangani et tout, mais en voyant ça, et à Yangambi en plus, c'est immense. C'est immense.
Tout a commencé avec les passages de Stanley. Quand il a remonté la première fois le fleuve Congo, il a vu du fleuve le plateau de Yangambi. C'est seulement à ce niveau ici que vous allez trouver un plateau surélevé au-delà de 100 mètres. Il a mis ça dans ce jour-là. C'était un bon plateau, une belle vie, et en plus, on peut faire beaucoup de plantations là-bas. Alors, c'est comme ça que le roi de Belge a dit non, nous devons avoir ces plateaux-là qu'on a vus. C'est comme ça qu'on est arrivé ici à Yangambi. Voilà, donc je m'appelle Elassi Ramazan. botaniste de formation. Et aujourd'hui, je suis responsable de l'herbarium national du Congo. Cette forêt des Yangambi, vraiment, elle est la référence de toutes les forêts qui se trouvent dans ce qu'on appelle les bassins du Congo. Les bassins du Congo, c'est jusqu'à l'altitude de 500 mètres. Donc, c'est le lieu le plus élevé. Et même sur les plans de la végétation, et il est vraiment, je veux dire, la synthèse de toute la forêt qu'on trouve dans les bassins du Congo. En plus, il est proche de l'équateur. Ça aussi, c'est aussi un élément. C'est presque à 0 degré de l'équateur. Donc, l'équateur est à peine à 150 km de Yangambi ici, l'équateur géographique. Il est donc des références de ce qu'on appelle le climat équatorial et de la végétation équatoriale. Voilà pourquoi Yangambi, et en plus ses acquis scientifiques qui sont ici, lui fait vraiment un pivot important. Parce que j'essaie de comparer Yangambi avec les autres villes scientifiquement. Je ne vois pas aucun coin du Congo qui a des acquis scientifiques comme ici. Que ce soit sur le plan de la foresterie, de la botanique et tout ce qui est de l'agronomie.
L'histoire de Yangambi est née d'abord de l'exploitation des levées, des caoutchoucs qui étaient à l'époque. Le roi Léopold II avait lancé donc une expédition vers le Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, pour la recherche donc des caoutchoucs. Et ils étaient vraiment intéressés, impressionnés par la forêt qui était là et qui avait un potentiel énorme pour l'agriculture et pour la foresterie. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de créer d'abord la première station, la station gaz. Là, ils ont commencé seulement par la spéculation.
Boniface Pochondola, directeur à l'époque de l'INERA.
En 1926, est née la régie de plantation. Et cette régie avait un caractère hybride. D'abord, s'occuper de la recherche et aussi s'occuper donc de l'exploitation. Mais le caractère hybride n'a pas permis vraiment à la régie d'étoffer vraiment la recherche. C'est ainsi qu'ils ont créé l'INERA en 1933. Je pense que de 1933 à 1940, c'était vraiment une période d'apogée. Une période où il y a eu beaucoup de résultats scientifiques, une période où il y a eu la diversification des domaines de recherche. Parce qu'au départ, on avait commencé avec les palmiers à huile et les verres. Et donc, au fur du temps, les recherches se sont étalées même au niveau des cultures vivrières. Et jusque donc les années 1960, avec des troubles qui se sont sévis pour l'indépendance, il y a eu le départ donc des chercheurs belges. Et donc, les centres étaient quasiment donc abandonnés. Et ce n'est qu'en 1972. Quand on a procédé au recrutement maintenant des chercheurs nationaux, qu'il y a eu reprise des activités. Mais je vais vous dire que, quoi qu'il y avait l'indépendance, l'INERA recevait toujours les subsides de la Belgique. Parce que la Belgique n'avait pas rompu le cordon ombilical. Et c'était qu'en 1975, lorsqu'il y a eu transfert, que la Belgique a rompu. Et après cette période-là, ça a suivi également beaucoup de rébellions, de guerres, donc d'agressions. Et cela vraiment a donné un coup fatal. Il y a eu une partie d'infrastructure qui était même apportée par donc les Rwandais et les Ougandais. Et même les matériels des labos. Et il faut attendre comme ça jusqu'à 2001. Et quand le pays était unifié, que le gouvernement a tenté un peu de prendre à charge rien que la rémunération donc des agents. Et actuellement, sur toute la couverture nationale, nous avons à peu près 15 stations de recherche et c'est le centre de recherche de Yangambi qui est le plus grand centre de recherche. Donc, à partir de ce que nous avons hérité des Blancs, au moins 12 quartiers résidentiels pour les agents. Puisque l'INERA, sur place ici, nous hébergeons jusqu'à 1333 agents. Nous avons au moins 6 programmes nationaux de recherche, donc de gestion et conservation des ressources naturelles. Et dans ces programmes, nous avons 3 sections. Nous avons la section climatologie, la section pédologie, Vous avez vu un imposant laboratoire là-bas, là où on fait les études du sol. Et nous avons aussi, donc, dans ce programme-là, donc, la section foresterie, dans la réserve des biosphères de Yangambi.
Vous voyez des endroits où il y a un arbre qui est tombé. Vous voyez qu'il y a plus de lumière, c'est plus clair que par rapport aux autres endroits où il y a beaucoup d'arbres. Ça, c'est important pour le cycle de la forêt.
Moi, je suis Brice Yannick Diopac, expert junior pour le projet Forêt. J'ai une formation de bio-ingénieur en gestion des forêts et des espaces naturels de l'Université catholique de Louvain, Belgique.
On désigne la forêt en fonction de ça.
Scorodophrus zinkeri, c'est l'espèce qu'on trouve le plus, qui domine dans cette partie.
Scorodophrus, mais vous avez son odeur. Donne un peu d'écorce là-dessus. Tu vas voir le... Mais je doute fort. Pourquoi il n'y a pas une odeur? Son odeur est souvent très très forte.
C'est cette odeur qu'on sent par ici? Parce que ici, c'est vrai que ça sent très très bon. Et là, on est dans quel type de forêt?
C'est la forêt naturelle. Ça veut dire ici qu'il n'y a pas eu l'intervention de l'homme pour favoriser une espèce ou une autre. Ça, c'est la forêt naturelle. Après, qu'on dit forêt vierge, forêt primaire, non. C'est des vieilles forêts secondaires. Elle a été exploitée, mais après un certain temps, après plusieurs années, la forêt se reconstituait, donc c'est une forêt secondaire. Et on a aussi des herbacées et surtout des marantacées qui sont caractéristiques des forêts secondaires. Qu'on en trouve aussi beaucoup ici. Et d'ailleurs, les riverains, ils utilisent ça, ils collectent ça pour emballer le manioc, la chikwang. C'est comme ça qu'ils appellent ça traditionnellement ici. On voit une forêt plus fermée, avec de gros et de petits arbres. Les petits arbres qui sont beaucoup plus effilés parce qu'ils cherchent de la lumière et donc la forêt est beaucoup plus fermée, c'est complètement couvert.
Ça fait comme une voûte avec les feuilles, c'est comme une cathédrale de verdure. Là on voit plein de lianes aussi.
Plein de lianes.
Et des arbres du sous-bois, c'est-à-dire les tout petits, les arbustes. Qui n'iront pas, quel qu'en soit ce qu'on fait, qui vont aller au-dessus de la canopée. C'est leur caractéristique. Ils restent tout petits, qui sont aussi là.
Ici, on est à un carrefour, si je puis dire. Je vois 5 sentiers. Par là, ça va par où?
Et ça va toujours dans la forêt. Il y a beaucoup de sentiers comme ça, pour des riverains, qui soit pour la chasse, soit pour récolter du bois, soit pour chercher des feuilles. Donc, ils ont des sentiers un peu partout dans la forêt. C'est une forêt qui est bien parcourue.
Est-ce qu'on est déjà dans la réserve de biosphère?
Depuis très longtemps. On est dans la réserve de biosphère de Yangambi. Mais ici, c'est dans le... Parce que dans les... 250 000 hectares de la réserve de biosphère de Yangambi, il y a 25 000 hectares qui appartiennent à l'INERA. L'INERA qui est pour comme site de recherche. Et donc c'est dans les 25 000 hectares de l'INERA que nous installons, que nous avons nos dispositifs scientifiques de recherche. Donc ces 25 000 hectares sont voués à la recherche.
Et pour mener à bien cette recherche, près d'une quinzaine de bâtiments ont été érigés et disséminés en pleine forêt équatoriale. Des laboratoires, des magasins centraux, un siège administratif, des huileries, des camps de travailleurs, une xylothèque ou collection de bois tropicaux, un herbarium et une bibliothèque. Aujourd'hui, certains de ces sites sont à l'abandon, les autres, largement fanés, semblent figés dans le temps. Celui des colons belges, quand plus de 4000 personnes travaillaient ici. Non loin du siège administratif de l'INERA, de vieilles parcelles des Verts rappellent d'ailleurs les heures sombres de l'exploitation intensive de l'arbre à caoutchouc. Aujourd'hui, sous l'impulsion de l'Union européenne et du projet Forêt, mené depuis 2017 par le CIFOR, Centre de Recherche Forestière Internationale, la vie renaît lentement à Yangambi. Et les chercheurs ont retrouvé le chemin de la bibliothèque centrale, un lieu fascinant avec ses milliers de vieux livres reliés de botanique ou d'agronomie, son architecture tout en rondeur sur deux étages en bois tropical sombre, un véritable temple de la connaissance scientifique. Et à chaque temple, son gardien, Christian Bessombi Afata.
Pour mener à bien la recherche agronomique et forestière, les chercheurs locaux, c'est-à-dire les étudiants, de l'INITIS, de l'IFA, de l'INIKIN, et aussi des chercheurs étrangers recourent toujours ici. Pourquoi ? Parce que c'est une bibliothèque qui regorge une somme importante des informations en matière agronomique et forestière. La plupart des données qu'on a ici, vous ne pouvez pas trouver à l'Internet.
On peut jeter un coup d'œil à la bibliothèque ?
Il n'y a pas de problème, madame. Nous sommes ici au magasin Livre, où vous verrez les classements, c'est fait par ordre des pays d'origine des documents.
Mais là, c'est vrai que la pièce est très très grande.
Oui, vous constaterez qu'on maintient bien les documents. Ici, c'est la salle d'exposition. De l'autre côté, là-bas, en haut, c'était les cartes qui représentaient les différentes concessions des différents programmes, des différents sites qui constituent notre centre de recherche de l'INERA Yangambi. En bas, c'est la salle de lecture, comme vous le constatez, si on peut descendre. Si on prend une fiche ici, c'est comment vous venez de lire ici.
Essais mécaniques de bois d'Indochine effectués au service technique des bois coloniaux. Paris, agence économique du gouvernement général de l'Indochine. Voilà.
Ici, nous sommes au niveau du fichier. C'est ça que nous considérons comme notre mémoire de la bibliothèque. Il y a vraiment des choses qui peuvent booster la recherche, non seulement dans les milieux et ici de Yangambi et aussi à travers le pays.
Alors là, on est devant l'herbarium qui a été construit en 1947. Mmh. C'est encore les bâtiments de l'époque, tout en briques. Ça fait combien de temps que vous travaillez à l'herbarium ?
Oui, c'est toute ma vie. Ça fait peut-être 35 ans que je suis ici. Et dès que j'ai terminé à l'université, j'ai mon premier job, disons le second, et ici. Et aujourd'hui, je suis responsable de l'herbarium national du Congo. Donc ici, à l'époque coloniale, la colonie belge comprenait le Congo, le Rwanda et le Burundi. Alors tout ce qu'on récoltait dans ces trois colonies était centralisé ici. Et en dehors de ça aussi, ça c'est la vie de chaque herbarium, il y a eu des échanges. Donc nous avons ici du matériel qui sont venus de l'Afrique du Sud jusqu'au Maroc, même de la Chine, du Japon, de l'Australie et du Brésil. Nous avons au moins 150 000 numéros d'herbiers. Le matériel le plus ancien que nous avons ici, je crois que date de l'époque où Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Donc toujours, je considère l'herbarium comme vraiment le sanctuaire des connaissances.
Voilà, ça c'est... Bonjour.
Ça, c'est notre salle trésor. L'herbarium en question, c'est cette salle. Comme vous le voyez, les armoires sont métalliques. Elles sont superposées. Pour y accéder, il faut utiliser une échelle mobile. Donc, vous montez pour aller accéder aux éléments qui sont ici. Alors, ici, nous avons tout qui a été récolté. Mais c'est seulement 60% de la végétation congolaise qui a été récoltée jusqu'en 1960. Ok ? Alors, il reste 40%.
C'est vrai que c'est assez fabuleux d'imaginer les 150 000 espèces qui sont là partout. C'est très haut de plafond. Ça fait combien ? 5 mètres ?
C'est 5 mètres. Il faut mettre jusqu'à 5 mètres pour atteindre la pente.
Donc, si vous pouvez constater, on est en train de reclasser ça. On scanne, on met dans une base de données, et puis on fait des mises à jour. Donc, des espèces qui ont changé de nom, on renouvelle tout ça, et puis par après, on reclasse ça dans ces petits armoires ici.
Et ça correspond à quoi les chiffres qu'on voit là, 16 652, 16 653?
Oui, ce sont les numéros de chaque boîte ici. Donc, dans les armoires, on met les herbiers selon les familles. Donc, nous avons notre ancien qui s'y connaît très bien, qui connaît vraiment tout ce qui se trouve ici. Il est aidé par notre jeune qui vient aussi de commencer sa carrière avec ses herbiers, pour qu'ils puissent assurer vraiment la continuité.
Et ça fait combien de temps que vous travaillez à l'herbarium ?
J'ai déjà fait 47 ans. Je suis classeur, identification, et puis presque tout.
Donc vous connaissez tous les tiroirs, tous les placards d'ici ?
C'est innombrable, hein ? C'est innombrable, parce qu'il y a beaucoup des herbes, mais pour l'identification, à part le chef, c'est toujours moi.
Est-ce que vous pouvez me dire votre nom ?
Je m'appelle Papa Yeni Olimo.
Et moi, c'est Ali de Kidimbu.
Bon, comme j'ai déjà fait 47 ans, je connais, j'ai beaucoup travaillé avec des serres, mais ceux qui fréquentent les barrières, je suis toujours là.
Vous pouvez me dire comment s'appelle cette liane ?
Cette liane s'appelle Periclocanigrensis, famille d'Apocynas.
Et elle sert à quoi ? C'est quoi toutes ses fonctions ?
Ça sert pour faire des flèches pour tuer les animaux. C'est son usage.
Mais aussi coller.
Coller des chambres, la texte.
Tu vois, c'est beaucoup plus facile pour les gens. Les gens, par exemple, on peut facilement s'en servir pour coller des chambres à air et continuer bonnement son voyage.
Donc, en fait, si on tombe en panne là sur une route, hop, on va dans la forêt, on cherche un EVA ou une liane, on recueille le liquide, la sève. Et après on colle.
Oui.
On s'en sert.
Oui.
En fait, c'est pratique ici, on a tout quoi dans la forêt.
Oui, voilà.
Et pas seulement aussi médicinal aussi. Oui. Puisque souvent les gens environnants utilisent souvent la médecine traditionnelle. Parce que parfois, avec des comprimés, ça ne tient pas. Tu vois, ils vont toujours recourir. Même s'ils sont en train d'aller à l'hôpital, mais ils vont toujours recourir à la médecine traditionnelle.
Vous aussi, vous avez recours à la médecine traditionnelle ?
Ah, mais c'est le fétichet. C'est le fétichet. Bon.
Vers les années 1945, le centre de recherche ici de l'INEAC à l'époque, c'était vraiment l'un des grands centres, je dirais même le premier centre mondial en termes d'agronomie tropicale. Donc, À l'époque, on collaborait avec des chercheurs de beaucoup de pays occidentaux et bien d'autres pays africains. On est tombé sur les archives qui montrent qu'il y avait même des gens qui quittaient Togo et bien d'autres pays qui venaient faire les stages ici, beaucoup de chercheurs. Donc c'était vraiment un grand centre d'agronomie tropicale au monde.
Quand toutes les choses ont commencé à dégringoler, il y a pris vraiment beaucoup de financement ici. Il y a même des gens qui ont quitté même Yangambi ici pour aller à Kinshasa lors des guerres là. C'est pourquoi même on a transféré la direction générale qui était ici, c'est maintenant au niveau de Kinshasa. Ici à les barriomes, c'était comme une époque de latence là. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'activité. Bon, et puis il y a maintenant depuis qu'il y a d'autres projets qui viennent ici, comme Benfo, il y a les projets Forêt et Afor et Forco, tout ça. Des gens ont commencé aussi à beaucoup fréquenter ici pour venir voir un peu les herbiers. Et en 2009, il y a eu l'API qui a commencé à faire la digitalisation des espèces endémiques qui sont dans l'autre boîte là.
Là c'est un des
types. Donc on a fait le type de ce qui est récolté pour la première fois ici.
Ça veut dire que c'est quand on découvre une nouvelle plante.
La première plante là, c'est ça, on appelle ça l'espèce type. Et l'espèce endémique, ce sont des espèces qui se retrouvent seulement, uniquement ici, dans cette région.
C'est ça l'endémisme, en fait, des espèces, hein, non seulement végétales, mais aussi animales parfois. Donc il y a des espèces qui sont spécifiques à un écosystème particulier. Et si donc on ne met pas beaucoup d'accent sur leur protection et quoi, et donc il y a risque de disparition totale quoi.
Je disais que vraiment il reste 40% de la végétation congolaise qui n'est pas connue. Ça, c'est, pour moi, c'est la priorité des priorités. Mais on ne se livre plus à des grandes récoltes parce que nous allons les amener, on va les mettre où c'est déjà plein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on essaie tout simplement d'entretenir ce qui existe et en faisant des remplacements spécifiques. Quand on trouve un matériel qui est abîmé, on cherche juste pour le remplacer. Donc, on fait vraiment le minimum parce qu'ici aussi, on n'a pas les moyens et les moyens financiers, techniques et matériels. Et le barium aussi a souffert de ce que Yangambi souffre en général, c'était la rupture du courant. Tout ce que nous avions comme matériel et qui utilisait le courant a rouillé des 60, je crois que jusqu'à aujourd'hui, c'est à peine que nous avons quelques panneaux pour faire fonctionner les ordinateurs.
Alors, donc en fait, depuis 1960, il n'y a plus de courant d'électricité à Yangambi.
Oui. Depuis 1960, il y a eu rupture avec la rébellion qui s'est passée. Et ce n'est que vers 70 jusqu'à 80 qu'on pouvait avoir du courant 6 heures par jour et on donnait seulement pour les usines et non pas pour les bureaux. Donc c'est ça qui a fait chuter les activités scientifiques. Et les botanistes congolais ont été formés les tout premiers dans le pays en 1970. Et ils étaient aussitôt absorbés par l'université. Et ici, il n'y avait personne. Donc, tout ce temps, tout était en dormance. Et c'est maintenant qu'on commence à réactiver les activités.
Give it a lot of love. l'entrée de l'arbre de l'authenticité, c'est là-bas. On entrait là-bas et on venait par ici avec le véhicule. Bon, vous voyez là où le tracteur entre pour aller là où on est en train de faire la tour. Oui, c'est l'entrée là, non, loin de là où nous sommes arrivés.
Cet arbre qu'on appelle arbre d'authenticité, à chaque fois que les gens viennent à Yangambi, ils sont toujours attirés d'aller visiter cet arbre. J'espère que ceux qui sont en train de nous écouter auront également le goût d'aller visiter cet arbre d'authenticité que nous sommes en train vraiment de préserver pour des raisons touristiques.
En compagnie de Serge Alébadois, étudiant en aménagement des écosystèmes forestiers à l'université de Kisangani, on part désormais à la rencontre d'un arbre mythique, objet de toutes les curiosités à Yangambi. Guidé par un agent de l'INERA, un groupe d'enfants, emmené par les studios Kabako, a fait la visite depuis Kisangani jusqu'à cet arbre, le nez en l'air, les yeux rivés sur ce géant de la forêt. Serge Alébadois.
En fait, c'est un arbre majesté, et en termes de hauteur, selon les estimations des botanistes, cet arbre a une hauteur de 45 mètres. Déjà, chez nous, en foresterie, lorsque un arbre a une hauteur de 45 mètres, c'est un arbre émergent. Et donc, ce sont les arbres de la canopée. Ce sont eux, lorsque nous sommes en train de... Surtout quand nous voyageons au bord d'un fleuve, tout est fermé. Et ce sont les arbres de la canopée qui ferment comme ça. Et parmi ces arbres, nous avons également cet arbre d'authenticité. Le paysan appelle cet arbre l'iloko. C'est ça le nom vernaculaire qu'ils ont donné à cet arbre. Et du point de vue commercial, les exploitants appellent cet arbre Eyeka. Mais du point de vue scientifique, hein, nous appelons cet arbre Pachelas Matesmani. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, un grand chercheur du nom de Jean-Louis, c'est le fondateur même de la division de la botanique dans l'INEAC. C'est lui qui a créé cette division de la botanique. Est entré dans la forêt primaire, un peu comme nous, curieux, visiter cette forêt. Et il a beaucoup entendu parler de la forêt de Yangambi. Alors, il est venu visiter. En entrant dans la forêt, dans la réserve floristique de Yangambi, dans la forêt primaire, il s'est rendu compte qu'il y avait un grand arbre. Il s'est dit, mais c'est quoi ça? Je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un arbre pareil. Ça, c'est majesté. Alors il s'est dit, ben, comme je suis botaniste, je vais étudier d'abord cet arbre pour connaître davantage quelles sont ses caractéristiques, et son âge, etc. etc. Et là, il a installé ce qu'on appelle un carré phytosociologique, juste pour étudier un peu l'espèce. Hein, et, alors maintenant, nous pensons que cet arbre a déjà plus de 3 siècles.
Cet arbre a eu la chance, je ne sais pas comment dire si c'est la chance, de se retrouver dans les tout premiers hectares où les scientifiques ont commencé à faire l'inventaire de la forêt. Ça, c'est du côté scientifique, ok? Et du côté politique, parce que le roi belge est arrivé là-bas. Il y a des photos que le roi est arrivé. Et pour martyriser aussi cet événement, on donne à cet arbre-ci le nom de l'arbre du roi. C'était Baudouin qui est arrivé ici. Il y a une route qui est entre les 17 km, qui traverse tous les groupements végétaux, des milieux secs, dans les marécages, et on les parcourait à pied. À l'époque, franchement, vous ne pouvez pas faire 10 mètres, 15 mètres sans voir les singes, les serpents, tous ces animaux que vous imaginez. Alors, donc, c'était des groupes un peu restreints de gens qui arrivaient là-bas. À l'époque, vous connaissez l'histoire, la légende de tout ce qu'on écrivait sur la forêt tropicale, la jungle, les pitons, les épingés, tout ça. Tous les expatriés de l'époque, quand ils arrivaient ici, ils disaient, je vais voir la forêt. Qu'est-ce qu'on appelle la forêt du Congo? C'est quoi exactement? Quelle est cette référence-là de la forêt du Congo? Alors, c'était la réponse à cette question commençait là, à l'arbre de l'authenticité. Donc, c'est comme ça que cet arbre a pris de l'importance. Après ça, les Congolais se sont mêlés là-dessus. Ils se sont dit, non, comment les Blancs peuvent aller en forêt pour aller parler et essayer de comploter contre nous? Et quelques malins, quelques sorciers disent que oui, s'ils arrivent la journée, nous irons là-bas la nuit. Et c'est ainsi que des malfaiteurs, d'autres gens, ils venaient là-bas, ils s'assoivent et disent, non, c'est notre tour. Maintenant, c'est nous qui régnons ici. Donc, on a créé des mythes au-dessus de ça. Peut-être que les rois avaient... Et en dessous, sous cet arbre-là, il a caché des fortunes là-bas. Et des autres disent, non, cet arbre-ci, c'est le point de contact de la magie blanche. Alors, chacun essaie de créer son histoire. Et quand le président Mobutu est passé au pouvoir, il vient avec l'authenticité, il dit non, c'est une occasion maintenant. Nous devons alors décoloniser notre arbre. Et on l'appelle l'arbre de l'authenticité.
Cet arbre,
c'est un arbre ordinaire. Il n'est pas le plus grand, ce n'est pas le spécimen, l'individu le plus grand. Je connais d'autres qui sont plus grands que lui. Mais l'histoire de la foresterie botanique du Congo a commencé à Ngambi, dans cet arbre-là.
Et quelles sont les espèces phares, les essences phares de la forêt d'ici?
Donc nous avons la framosia, nous avons les bois d'ébène, les étendofragments. Ça, ce sont des bois vraiment très, très appréciés, de qualité pour la forêt de Yangambi. Et ici, effectivement, nous sommes presque dans l'épicentre de dispersion de ces espèces-là. Nous, ici, nous nous occupons de la framosia en particulier parce qu'il est déjà inscrit sur la liste noire de l'IUCN comme une plante menacée. Donc, il faut déjà songer et à commencer à comment avoir des plantations pour aider la nature, parce que d'ici 50 ans, je ne pense plus que le Congo pourra exporter de la framosia. Ça sera fini ce que la nature a produit.
Parce que tout le côté là, on voit que c'est la framosia. Et puis on voit seulement un seul gros à côté. Mais ce mois-ci, est-ce que c'est celui-là qui a donné naissance à tous les petits qu'on voit ici? Ou c'est celui-là? C'est autant de questions. C'est extraordinaire. Donc ici, on est dans la forêt aménagée. On appelle ça la forêt aménagée parce que c'est une parcelle expérimentale initiée par l'INEAC. Les chercheurs de l'époque, ils avaient initié des essais de régénération naturelle sur plusieurs essences, notamment à Formosia. Et aujourd'hui, c'est l'espèce la plus abondante. Et c'est sur cette espèce que les recherches du projet Forêt sont actuellement focalisées. Et ce qui se passe, c'est que la framosia, c'est une espèce déjà de bois d'œuvre de grande valeur économique et qui est parmi les premières essences sur le marché de bois tropicaux. Et elle a un problème. Elle a un problème de régénération naturelle. Et elle est pas en voie de disparition, mais les populations dans des aires naturelles de distribution ont beaucoup diminué.
Mais regarde, tu as vu ça? Tu as vu le trou là? Voilà les problèmes avec ces histoires là. Toi, le germe, ça c'est quoi, non?
Là, vous cherchez les graines?
C'est ça, c'est des graines.
La chenille a tout bouffé.
A tout bouffé. Ouf. C'est ça la difficulté avec cette espèce. Et comme ils ont un problème de régénération, est-ce que ça ne donne pas assez de fleurs? Est-ce que ça donne beaucoup de fruits et après toutes les fruits avortent, ou bien ça donne des graines qui finalement ne peuvent pas germer? À quelle période ça donne des fruits et à quelle intensité? Et donc ça, c'est de la phénologie de la framosia. Tous les mois, il y a une équipe de techniciens de l'INERA dans le cadre du projet Forêt qui font des observations, donc ça permet de finalement à la fin de comprendre comment est-ce que l'espèce se comporte.
Le mystère de la framosia.
Le mystère de la framosia.
Dans la réserve floristique de Yangambi, nous avons constaté qu'il y a plus ou moins 500 espèces d'arbres, espèces arborescentes, et il y a plus ou moins 130 espèces dominantes, c'est-à-dire les espèces qui ont une hauteur de plus de 30 mètres. Une des raisons, c'est que nous avons une très forte densité, ce qui fait que les arbres ont tendance à aller plus haut pour la recherche de la lumière. Et donc, il y a une très forte compétition que nous appelons techniquement une compétition interspécifique. Chaque espèce veut aller récupérer suffisamment de la lumière et croître beaucoup plus en hauteur. Et ce qui s'est fait naturellement, c'est le phénomène du chablis. Suite à certains phénomènes naturels, notamment le vent violent, les arbres, des grands arbres qui ne se positionnent plus très bien au sol, ont tendance à chuter. C'est ce qui permet que les jeunes arbres qui sont au niveau du sous-bois puissent croître davantage et atteindre également l'âge de maturité. Et donc là, c'est vraiment un cycle. Une fois qu'il y a une ouverture que nous appelons la trouée, cette ouverture-là qui se crée dans la forêt, où il y a suffisamment de lumière que nous pouvons voir, cette ouverture va permettre à ce que les jeunes arbres puissent croître. Et dans la forêt aménagée, toujours dans la réserve des biosphères de Yangambi, on essaye un peu de faire aussi des trouées artificielles. Donc voilà un peu quelques expériences et les résultats de ces expériences dans la réserve des biosphères de Yangambi.
Alors dans le cadre du projet Dessine-moi une forêt, vous avez sensibilisé des enfants sur la déforestation. C'est un projet qui, je crois, a duré un an. Vous avez fini le projet en emmenant les enfants à Yangambi. Et c'est quand même un projet un peu fou d'emmener des enfants en moto comme ça.
Ah, c'était pas facile parce que la route est dans un état tellement délabré. Nous nous sommes battus, nous avons fait, si je ne me trompe pas, 8 heures du temps de marche. Les enfants sont arrivés un peu abattus. Mais comme ils avaient vraiment envie de découvrir la forêt, les lendemains, nous avons commencé avec le travail. Notre première visite, c'était d'abord la station climatologique des Lunera, autour de la relation que la forêt peut entretenir avec le climat. Et donc, il s'était important de visiter alors la station pour que les enfants puissent savoir comment on mesure ces paramètres-là. Après la station, nous sommes allés au niveau de l'arbre d'authenticité, où les enfants ont été émerveillés de voir ces grands arbres au milieu d'une forêt. Il faut savoir quelles sont les habitudes des paysans, qu'est-ce qu'ils font concrètement pour conserver leur forêt, et après, utiliser ces habitudes-là. Si c'est pour, ce sont des habitudes positives, essayez d'appuyer ces habitudes, parce que ça va vous aider dans votre méthode de conservation.
Et vous, est-ce que la forêt aussi, elle représente quelque chose dans la mesure où c'est aussi la forêt de vos ancêtres?
Oui, effectivement. D'abord, du point de vue, la logique que j'ai déjà, nous connaissons que la forêt était un patrimoine mondial. La forêt, ce n'est pas l'affaire des Congolais seulement. C'est vrai que nous avons la grâce que ça soit au Congo. Une grande partie du bassin du Congo, la forêt du bassin du Congo se concentre ici chez nous en RDC. Mais c'est un trésor mondial, c'est l'affaire de tout le monde. Donc déjà, je reçois la forêt comme un patrimoine mondial. Mais aussi, par rapport à la tradition, la forêt est d'une grande utilité pour nous. Parce que nous sommes le peuple Ema, et du point de vue traditionnel, nous vivons beaucoup plus de l'élevage. Or, un des avantages de la forêt, c'est que la forêt favorise ou maintient le cycle hydrique. Donc là où il y a la forêt, vous avez facilement la possibilité de rencontrer des réseaux hydriques et donc il y a de l'eau en permanence. Une fois que vous abattez, dans notre tradition, si vous abattez cette forêt, il y aura tarissement. Et quand il y a tarissement, nos bêtes ne peuvent plus s'abreuver. Vous voyez un peu ce que la forêt est en train de faire. En protégeant les réseaux hydriques, la forêt est en train de contribuer pour l'alimentation humaine. La forêt est en train de contribuer pour les activités quotidiennes. Voilà un peu l'utilité de préserver encore notre forêt.
Mmh.
Le Congo, c'est le deuxième pôle forestier du monde. Et il est le premier de l'Afrique en termes de surface forestière. Et on dit aussi, d'une façon imagée, que la forêt congolaise, c'est le deuxième poumon du monde. Donc il faut sauver ces deuxièmes poumons du monde. Et pour les sauver, il faut récolter, protéger et la totalité de toutes les espèces du Congo ne sont ni protégées ni conservées. Donc, cette biodiversité-là qui est entrée aujourd'hui en danger. Le danger qui ne provient pas de l'extérieur, mais provient de l'intérieur du Congo. Parce que la population congolaise est très dynamique. En 1960, le Congo avait au moins 16 millions d'habitants. De 60 jusqu'à aujourd'hui à 2000, c'est à peine 60 ans après, on est arrivé vers dans les 80 millions d'habitants. Et plus de 80% de la population congolaise vit des activités de champêtre. Et aujourd'hui, avec l'introduction des tronçonneuses et les moyens de transport, donc non seulement l'agriculture qui détruisait la forêt, maintenant l'exploitation artisanale de la forêt s'accélère. Et d'une façon désordonnée. Donc, si rien n'est protégé aujourd'hui, nous avons pris un très mauvais départ en ce qui concerne la biodiversité du Congo. Et c'est vraiment ça fait part de la responsabilité de la communauté internationale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en attendant que nous, les Congolais, nous comprenions l'importance de la forêt, ceux qui les comprennent peuvent nous aider à les protéger. Et si on pense que non, si les Congolais ne font rien, on s'en fout avec eux, alors le deuxième poumon va disparaître. Je ne sais pas ce qui va se passer. Quand je vois que même la Radio France Internationale envoie ses agents jusqu'à dans ces jungles ici, ça me réjouit, ça me fait plaisir. Parce que ça va porter le message sur les toits.
Pour l'instant, sur le toit du monde, et en particulier celui de la réserve de biosphère de Yangambi, on est en train de construire la première tour à flux de carbone en République démocratique du Congo. Un outil qui s'élèvera au-delà des grands arbres et servira à mesurer l'impact de la forêt du bassin du Congo sur l'atténuation du réchauffement climatique. Mais comme en Amazonie, la menace est humaine et s'appelle déforestation. À ce jour, dans le cadre du projet Forêt, 300 000 arbres ont déjà été plantés et petit à petit, on restaure le paysage de Yangambi, souvent dégradé parce que surexploité. Cet enjeu de la déforestation, de l'usage de la forêt par les populations locales dans cette forêt vivante et peuplée, on vous en parle la semaine prochaine dans le deuxième épisode de notre voyage à Yangambi. Merci à l'INERA et ses agents pour leur accueil. Merci à Justin Kialekoy, enseignant-chercheur à l'université de Kisangani, qui a accompagné Élise et que vous avez entendu avec les agents de l'herbarium. Merci au studio Kabako et au CIFOR. Élise Picon, Céline Develay-Mazurel, Laure Allary. On vous dit à la semaine prochaine.